Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Ce matin, on va ouvrir une page de la Bible et nous allons dans l'Ancien Testament, un texte. C'est certainement un des plus petits livres. C'est un livre, donc, qui est sensible pour nous exhorter à la consolation. Oui. Moi, ce matin, j'avais à cœur de vous parler de consolation, parce que c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes, et ça à travers tous les temps, hein. Et c'est un livre extraordinaire. Est-ce que le mot de Ruth vous parle? Ouais. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une belle histoire. Magnifique. Comment Dieu est capable de changer le mal en bien. Alors nous avons nous en imprégner. J'avais prévu un autre passage, mais comme ça m'arrive assez souvent, je médite un texte, puis j'en donne un autre au moment où j'arrive à vous voir. Et c'est ce qui s'est passé, en quelque sorte. Alors, livre de Ruth, je vais vous aider à trouver le passage. C'est après le livre des juges. D'accord ? Livre des juges. Et j'aimerais donner une introduction, simplement pour donner la trame de cet enseignement, parce que c'est un enseignement, on peut le dire. Pour vous dire, comme je viens de le signaler il y a un instant, c'est que Dieu console de toutes les misères. Et vous avez besoin d'entendre ce langage, parce que nous traversons les uns et les autres d'une façon tout à fait différente, naturellement, physiquement, moralement, spirituellement, des moments difficiles dans notre vie. Et je pense que la Bible, elle est faite non pas pour accuser, non pas pour écraser, non pas pour broyer, mais elle est faite pour nous consoler et nous encourager à faire confiance à Dieu. Alors, si l'on prend le contexte, l'environnement de la vie de Ruth, et puis de tous ceux qui vont naturellement être ses accompagnateurs pour un temps, ou les uns et les autres qui vont venir dans sa famille, qui vont, ou elle-même va aller dans la famille de ces gens, c'est que si on fait un état des lieux, nous nous apercevons, il y a un texte qui cadre tout cela, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui était, qui lui semblait bon. Vous connaissez, hein, vous l'avez lu déjà à plusieurs reprises. Il n'y avait plus de, comment pourrait-on dire, d'autorité établie. Ouais, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et puis, c'était, nous pouvons dire, d'une manière politique, sociale, religieuse, ne parlons pas du spirituel, c'était du grand n'importe quoi. Eh oui, chacun avait ses idoles, chacun avait, en effet, eh bien là, ses dieux. C'est véritablement, ça durait 430 ans, hein, ou 400 ans. De période des juges. Alors je peux vous dire que la loi de Moïse était particulièrement dégradée. Chacun la mettait à sa convenance, et on peut dire que ça ressemble vraiment à notre temps d'aujourd'hui, dans tous les domaines. Voilà. Et puis il y a un moment donné, il y a, comme à chaque fois qu'il y a véritablement, eh bien, là, beaucoup de perturbations, où les gens ne s'entendent plus, où véritablement on abandonne les vrais principes, les vraies valeurs, eh bien, il y a toujours un événement qui se produit. Il y a là qui va venir sur tout le pays, de la Palestine et ailleurs probablement, eh bien, une famine, mais terrible famine. Ça aurait pu être un tremblement de terre, ça aurait pu être tout autre chose, mais, eh bien, c'est véritablement une famine qui va arriver. Qu'est-ce que font les gens quand il n'y a plus rien ? Et surtout lorsqu'il passe de l'abondance à véritablement la disette. On n'est pas habitué à ça. Hein, quand on passe, et on va le voir, quand on passe de la disette et qu'on vient et qu'on arrive dans un espace d'abondance, ça fait du bien. Ah ben dis donc, je peux vous dire que, hein, et dans tous les pays on a connu ça, à un moment donné c'était terrible. Et souhaitons que les pays qui sont aujourd'hui dans le malheur, eh bien, connaissent des temps nouveaux. À moins que Jésus revienne. Et que lui, ça va être véritablement universel. Ça serait bien. On peut prier pour ça d'ailleurs, hein, dans nos réunions. Alors, voilà ce temps de famine. Et il y a aussi parfois, ce qui est terrible parce que ça nous touche personnellement, des pertes familiales. Oui, on perd un papa, on perd une maman, on perd un frère, une sœur, on perd bien sûr nos ascendants, parce que ça fait partie des choses qui, eh bien, appartiennent à la vie naturellement, mais le cœur est endolori. Et on n'oublie pas, finalement, ceux qui nous ont précédés, parce qu'ils nous ont donné la vie. Ils nous ont donné beaucoup de choses. Et voilà que l'histoire marque cette femme qui, je voudrais le dire, n'est pas une juive. Ruth est moabite. C'est une femme païenne. C'est une femme qui a ses dieux, qui a ses traditions, qui a toutes sortes de choses. Rien à voir avec la foi en l'Éternel, la foi que les Hébreux ont en Dieu, même si ça va un peu de guingois. Hein. Donc, elle est présentée dans la Bible comme une femme d'une grande vertu, Ruth. Oui. Et pourtant, quelque part, elle est d'origine païenne. Mais il y a des principes qui dépassent toutes les religions, qui dépassent toutes les croyances, parce que ça, c'est le cœur qui parle, et le cœur qui sait reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, de ce qui est pur, ce qui est impur, de ce qui est finalement la lumière et les ténèbres. Donc, elle fait partie de ces gens, naturellement, quoique païenne, eh bien, avec une grande vertu. Et puis, elle est à la recherche de la vraie foi, elle aspire à la foi. C'est pas tellement ce que c'est, parce qu'on ne lui a pas enseigné. Mais néanmoins, elle pense quelque part qu'il y a un Dieu qui aime les hommes. Un Dieu qui véritablement, eh bien, est créateur. Un Dieu qui sauve. Un Dieu qui apporte le bonheur. Ça, c'est important. Et il y a, en effet, une autre qualité que je vous ai soulignée avant de lire le texte. C'est une femme qui sait... Eh bien là, renoncer, est-ce qu'elle a pour aller de l'avant, pour aller vers l'avenir? Elle sait finalement, eh bien, comme pourrait nous dire Jésus, elle sait porter sa croix. On ne parlait pas de la croix à l'époque, hein, ça c'est certain. Et ça s'appelle le renoncement, et ça c'est une qualité, parce que entre les mains de Dieu, Dieu peut faire des choses extraordinaires, avec les plus simples d'entre nous, dans la mesure où véritablement, nous répondons à l'appel du Seigneur, et elle va le faire, et nous allons voir. Et puis il y a quelque chose aussi que je voudrais souligner avant de passer en crible ce texte, c'est qu'elle ne le sait pas encore. Nous on le sait parce que l'histoire est passée depuis 3000 ans, 3500 ans, mais elle ne le sait pas. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, c'est qu'il y a des choses de préparées, que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, ce que j'appelle une trajectoire divine. Dieu nous appelle, vous êtes là. Dieu, en effet, a déjà une idée bien précise de votre arrivée. Alors, peut-être de l'autre côté, mais déjà sur la terre, il s'occupe de nous. La trajectoire. Trajectoire qui est guidée d'en haut. Ça s'appelle aussi la foi. Oui, nous ne sommes pas sans Dieu, nous ne sommes pas finalement sans raison du pourquoi nous sommes sur la terre. On connaît toujours notre passé, on connaît notre présent, on est en train de le vivre. Mais on ne connaît pas ce qui sera demain, en tous les cas. Mais Dieu le sait, lui, à l'avance. Et il prend les uns, les autres, etc., etc., pour véritablement réaliser, eh bien, son projet. Et nous pouvons reprendre cette parole tellement connue, c'est que, au reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous sommes tous appelés, de toute façon. Alors, c'est intéressant de voir un petit peu, parce que c'est un plan qui est de Dieu, un plan invisible, insondable, comme nous dit l'Épître aux Romains, c'est Paul qui le dit, il dit cette parole, il dit, mais comment pouvoir estimer la sagesse, l'intelligence, les choses incompréhensibles que l'on ne peut pas sonder en quelque sorte. Et c'est Paul qui le dit, et c'est vrai que ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas, mais il veut nous faire rentrer dans ces choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais que nous allons comprendre demain. Parce que les choses vont se faire, les choses vont se réaliser si nous avons ce renoncement, et puis cette souplesse, cette flexibilité, toujours dans cette confiance que nous mettons en Dieu, et c'est lui qui va nous conduire. Et quand on arrivera au bout, nous les anciens, on commence déjà à s'apercevoir que, quand le Seigneur, depuis le jour où il nous a appelés, il a fait des choses. Ah, wow. On n'a pas toujours été conscient des chemins par lesquels il nous faisait passer, des chemins mystérieux, des chemins étranges et étrangers, et on s'aperçoit qu'il ne s'est pas trompé. Hein. Et pourtant, on n'est pas rendu au bout. Hein. Enfin, bon, j'espère. Ouais, la sagesse incompréhensible qui nous dépasse, la sagesse de Dieu. Alors, je termine cette introduction. Je dirais que après les malheurs du dénouement, vient la fortune. Vous y croyez? À la fortune? Alors, vous savez qu'on ne peut plus jouer au loto maintenant. Parce que il y a des petits malins qui retirent les fils de cuivre dans les, comment pourrait-on dire, dans les postes de relayage de, finalement, d'Internet. Hein? Alors, nous, on ne croit pas à cette fortune-là, parce que ce n'est pas elle qui rend heureux. Mais il y a une fortune qui vient de Dieu, où là, nous pouvons dire que Dieu est riche et il partage sa richesse avec nous. Ça s'appelle le contentement. Ouais, c'est bien, c'est formidable d'être content, parce que on est un pays qui est vraiment très docile. Tout le monde est content. On laisse la place à tout le monde. Vous avez un premier ministre qui va être remplacé par un deuxième, par un troisième, etc. On voit du monde. Ouais. Et puis bientôt, ça va être au tour du président. Et moi, je pense, on va finir par un roi. Moi, je verrais bien un Néron, comment il s'appelle, enfin, il y en a d'autres, hein, voilà, des... Bon, je ne veux pas vous faire peur. Mais toujours est-il que ça, c'est la fortune de Dieu pour chacun d'entre nous, être heureux de ce que Dieu est notre Dieu et de ce qu'il nous donne, mais surtout de ce qu'il est. Hein. Attention, il ne faut pas regarder Dieu comme un distributeur, finalement, de bénédictions, etc., etc. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde, aujourd'hui, où les gens sont malheureux d'être heureux. Vous partagerez peut-être pas avec moi, mais quand même, c'est vrai, incroyable ce que les gens se plaignent. Ils se plaignent de ce que nous, nos pères, nos grands-pères n'ont pas eu, parce que c'était aussi des temps difficiles. Alors, on ne sait pas, hein. On ne sait pas, on va très loin dans tout ça. Alors, finalement, cette fortune, en ce qui concerne Ruth, eh bien, elle se décline par des naissances. Oui, des naissances voulues par Dieu. Elle va, au sortir de sa misère, hein, Ruth, elle va trouver un mari riche, mesdemoiselles, ou mesdames, enfin mesdemoiselles. Enfin, je vous laisse rêver, je ne peux vous en dire plus. Elle trouve un mari qui est un des principaux personnages de la région de Juda. Et il s'appelle Boaz. Boaz. Ouais. Elle va se marier avec elle, et c'est tout à fait normal. Elle va enfanter un fils de Boaz. Il s'appelle Obed. Ouais, c'est des beaux noms, hein. Ouais, il faut mieux encore faire attention. Obed va engendrer Isaïe. Ah, tiens, mais sur des années, hein. C'est des décennies qui vont se... Ah oui, c'est des générations, naturellement. Alors... Eh bien, Obed va engendrer, enfin, en tous les cas, il va donner au monde Esaïe, qui lui-même va devenir le père du grand roi d'Israël, David. Et figurez-vous quelque chose, c'est que David, eh bien, va être l'ancêtre, parce qu'il y a une filiation charnelle, de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça l'histoire de Ruth. Dieu voyait de loin son jumelle. Mais et il met les choses en place. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être, eh bien, comme Ruth. Mais ça ne s'est pas passé tout seul. Ça ne s'est pas passé facilement. Alors, nous allons justement, eh bien, prendre ce texte, Ruth, chapitre 1er. Je vais le décomposer un petit peu par section. Et vous allez voir. Enfin, vous allez surtout entendre, j'espère. Parce que si je parle, si vous ne m'entendez pas... Donc, Ruth. Chapitre 1er, après le livre des juges. On va lire quelques passages que je vais commenter. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, celle dont nous avons parlé tout à l'heure. Un homme de Bethléem, et vous savez ce que veut dire Bethléem ? La maison du pain. La maison du pain. Bethléem de Juda, cet homme, eh bien, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Un séjour dont nous allons parler tout à l'heure, c'est plus un séjour, c'est véritablement, eh bien, là, un point d'ancrage. Hein. Il va rester 10 ans dans le pays de Moab. Donc, parmi les païens, avec tout le contexte païen, avec toutes les traditions des païens, etc. Et c'est un juif. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, une femme formidable, et ses deux fils qui s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, donc de Bethléem, de Juda. Alors, à un moment donné, lorsqu'ils ont quitté ce pays dans ces circonstances, il y a naturellement eh bien, quelque chose qui va se passer. Ils vont partir et nous voyons qu'ils arrivèrent au pays de Moab, où ils fixèrent leur demeure. Ils sont partis pour faire un séjour et maintenant ils demeurent. Vous voyez comme quoi les saves changent les plans. Hein, en disant je vais rester dans tel endroit quelque temps, et puis à un moment donné, voilà, ben, hein, on est obligé de partir. Quelquefois Dieu nous fait voyager. Hein. Il nous est parlé donc de la famine. Et ils partent, non pas pour des raisons d'une meilleure situation, mais ils partent parce que c'est véritablement la vie ou la mort. Voilà, ils ont certainement vu dans Bethléem, dans ce pays qui s'appelle la ville du pain, la maison du pain, et bien ils ont certainement vu de leur famille et de leurs compatriotes des gens qui mouraient de faim. Et Élimélec s'est dit, moi je ne peux pas laisser ma femme et mes enfants mourir comme ça, il faut faire quelque chose. Et ils font comme des millions et des millions de gens font aujourd'hui, eh bien, ils émigrent. C'est une loterie, hein, l'émigration. Parce que... Il y en a qui sont tombés dans des pays, c'était terrible. Et c'est encore terrible. C'est terrible. Voilà. Alors la famille, elle est là, la famine. Élimélec, mari de Noami, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ah oui, c'est loin des projets que cet homme, chef de famille, bethléémite, juif, eh bien, avait prévu. Ah oui, parce que on a la vie devant nous, et puis on veut voir la vie, on veut vivre, ne serait-ce que pour ceux qui sont nos bien-aimés, naturellement. Et là, vous avez le texte. Il était donc, il mourut, et il resta, et elle resta avec ses deux fils. Pas question de reversion, hein, de la retraite. Hein. Pas question, finalement, eh bien là, d'autre chose que de fuir. Alors, c'est ce qu'il a fait, mais il est mort. Et c'était une famille sans soutien naturel, parce que bon... Voilà, c'est quand même hein, le travail de l'un et de l'autre, du mari et de la femme, particulièrement à cette époque c'était l'homme, d'apporter finalement eh bien, le pain sur la table. Ses deux fils prirent des femmes moabites. Ben oui, parce qu'ils étaient en Israël. S'ils étaient restés en Israël, ils auraient pris des Israélites. Et là, il n'y avait pas de problème de conflit, finalement religieux. Au niveau de la croyance, il y avait quelque chose hein, qui pouvait les unir. Mais là, ils vont prendre des femmes moabites, probablement des belles jeunes filles. Parce que vous savez, à l'époque, les filles, on les mariait à 14, 16 ans, ou peut-être même avant, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas contrôlé, mais toujours est-il que c'était comme ça. Alors, ils prirent des femmes moabites, dont le nom de la première s'appelait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là. Parce que, quand vous marquez le temps, ils sont partis pour un séjour. Ensuite, ils ont demeuré et ils habitèrent là, nous dit le texte, environ 10 ans. Ça fait loin, 10 ans, hein. Où la famille est décapitée puisqu'il n'y a plus de papa. Il n'y a plus de père. Hein. Alors, ils se sont installés, tant bien que mal, en faisant des unions avec chacun des deux garçons, en faisant des unions avec finalement des étrangères. Malcon et Quijon mourir aussi, c'est terrible une chose pareille. Vous vous rendez compte? La pauvre Naomi va rester toute seule. C'est une véritable détresse, c'est une catastrophe. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'on peut faire dans une situation? C'est véritablement là la misère, on peut dire. Hein. De quoi vont-ils vivre? Sur le plan sentimental, c'est une dévastation, parce que je pense que c'était une famille où ils s'aimaient. Entre eux, naturellement, comme dans un couple, comme dans une famille normale. Et ils moururent aussi tous les deux, et là il y a une parole qui est dramatique, Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est le glas qui sonne à ce moment-là. C'est terrible. La Bible est quelque chose qui nous explique d'une manière très, très simple. Mais là, c'est affreux. Et on peut deviner ce qui se passe. Si on y met un peu d'imagination, et puis les mots sont significatifs, hein, il n'y a pas les plus longs. Alors, notre brave Noami, qui va jouer un rôle formidable quand même aussi, hein, il nous est dit qu'elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, pour une raison particulière, car elle a appris, peut-être par des voyageurs, peut-être par des juifs qui traversaient Moab et qui allaient peut-être dans les fins fonds de l'Arabie ou des choses comme ça, mais elle a appris que le pays de Moab avait été visité par l'Éternel. C'était pas qu'on lui avait dit de bouche en bouche, d'homme en homme, hein, de constatation que voilà, c'est fini maintenant, là. Ça durait 10 ans. Hein. Alors que Dieu avait visité, c'est ce qu'elle va retenir. Si c'est Dieu qui le dit, si c'est Dieu qui l'a fait, eh bien il y a quelque chose certainement de bon, même pour elle. Alors, va-t-elle hésiter ou pas, mais toujours est-il qu'elle a pris la décision, elle se lève, d'aller et de quitter Moab, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui lui est annoncée. Vous savez, les hommes peuvent nous donner des bonnes nouvelles, mais attention, hein, faut vérifier si elles sont justes ou pas. Hein. Mais Dieu ne se trompe jamais. La bonne nouvelle de l'Évangile, il ne se trompe pas. Il n'y a aucun souci à se faire. Il a appris une bonne nouvelle et elle sortit du lieu où elle habitait. Ça lui est certainement un déchirement de laisser 3 sépultures derrière elle. Oui, certainement. Accompagnée de ses belles-filles, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors ça pouvait prendre quelque temps, hein. Bon, c'est pas le bout du monde, hein. Moab et puis Bethléem, si vous regardez sur une carte, vous verrez. Mais néanmoins, ça fait quand même un petit voyage, et un voyage où on ferme la porte à jamais, le passé. Voilà. Noémie dit alors à ses belles-filles, c'est intéressant de voir un petit peu le conciliabule ou la discussion, elle leur a dit à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. » Eh oui. C'est tout à fait logique. Et que l'Éternel, elle prononce une bénédiction sur ses 2 filles, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous me l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Eh oui, elle va véritablement reconnaître que dans ce malheur, il y avait un petit peu de bonheur. De toute façon, c'est toujours le mélange. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être idéaliste, il ne faut pas être absolu. Parce qu'il y a toujours, quelque part, un mélange. Jamais tout est noir et jamais tout est blanc. Il y a tous les deux. Et quelquefois, à travers les épreuves, nous avons des visitations de Dieu qui nous transportent, qui nous font tressaillir. Alors on les oublie vite, mais néanmoins, nous ont fait du bien pour une circonstance ou une autre que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais dont nous nous souvenons que Dieu est toujours fidèle. Amen. Et c'est quelquefois quand c'est très, 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 très noir que quelque part Dieu se manifeste. Mais il le fait avec une tendresse, il le fait avec une douceur, que quelquefois on se dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui, on est des humains, mais on a des ressentis, on a des sentiments. Alors, elle va leur parler de cette manière. « Mes filles, dira-t-elle, mes belles-filles, mes belles-filles, vous avez été bonnes avec chacune son mari, vous avez été bonnes avec votre beau-père, mais vous avez été bonnes aussi avec moi. » Donc ça se termine bien quelque part, hein, avant de partir. Vous savez, il y a des choses que quand on part vers l'inconnu, vers l'aventure. C'est là où il faut se dire les choses. Hein. Il faut se dire les choses, il faut les partager. Alors elle va dire, mais que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de son mari. Ah, mais là ça va se compliquer. Oui, parce que Naomi avait été, c'était une femme mûre, elle avait quand même deux enfants, deux garçons mariés, morts naturellement, et peut-être même de très jeunes belles-filles. Mais attention, elle leur fait une proposition qui va se heurter au mur de la nature. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune le repos dans la maison d'un mari. Wow! Elles avaient peut-être 20 ans, ou peut-être un peu plus, et elles devaient prendre des enfants qui étaient encore au berceau. Imaginez-vous le tableau. Hein. Pas des petits garçons, parce qu'il y avait quand même une différence à ce moment-là. Compliqué, hein? Même quand Dieu fait des miracles, ça c'est quand même un miracle. Remarquez, vous allez me dire, Sarah, à 80 ans, enfanter un fils. Hein. Tout est possible à celui qui croit, mais c'est quand même pas tous les jours que ça se voit. Alors, elle les a embrassés véritablement de tout son cœur. Elle les baisa. Mais les filles, elles élevèrent la voix et elles pleurèrent. Ah oui, mais ça c'est encore une autre affaire. Hein. Parce que quand on s'attache à des gens, quand on s'attache à des personnes, et puis que finalement, eh bien, les circonstances de la vie brisent tout cela. Ça tombe, c'est comme un vase qui tombe par terre sur du carrelage. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour recoller tout ça? Alors, pour elles, elles avaient certainement vécu probablement de bons mariages, de bonnes relations avec leur mari. Et puis, il y avait cette Noémi qui a été leur mère. Puis moi, je voudrais vous dire que Noémi n'allait pas rester sans parler du Dieu d'Israël. Et c'est ça, justement, la question. Dans son marasme, eh bien, elle ne s'est pas dit « moi, je ne parle plus de Dieu ». Non, elle a dit « moi, je parlais de mon Dieu ». Et les belles filles, ça a été probablement des messages de consolation pour leur cœur dans le deuil, et ça a développé une petite graine où elles ont cru dans le Dieu d'Israël. À cause de Noémi, finalement, qui leur a parlé du Dieu d'Israël. Dans les circonstances où il y avait tout pour dire « mais ton Dieu, il est inactif, il ne fait rien » et tout ça. Non. Et c'est ça. Et vous savez, quelquefois, on rend beaucoup plus témoignage quand on est nous-mêmes dans l'épreuve pour parler à des gens qui sont dans l'épreuve, on saura leur dire les mots parce qu'on y passe, que quelquefois tout va bien. Quand nous sommes dans l'embonpoint, moral et spirituel, parlez. Et ne vous arrêtez pas en disant « moi j'ai trop de problèmes, je ne parle plus de Dieu ». Non, allez-y, vous allez voir comment ça va faire, parce que ce n'est pas seulement les mots que l'on parle, que l'on dit, mais c'est comme s'il y avait un cœur à cœur. Et là, il y a quelque chose qui vient, qui n'est pas vous, mais qui est l'Esprit de Dieu, qui se sert de vous et de vos paroles, de votre bouche, pour parler à des gens qui sont malheureux. Parce que vous savez, quelquefois, on a vu des choses extraordinaires, où vraiment, on a rendu témoignage, et ça nous a fait du bien nous-mêmes. Combien de fois, nous, prédicateurs, nous sommes arrivés, moi je me souviens de l'histoire de Cholet, c'était pas possible. On est resté 23 ans à Cholet, hein. Enfin, dans l'église de Cholet, parce qu'on était dans une autre église en même temps. Mais quelquefois, je disais à Myriam, je disais, mais je me sens mal avant la réunion. Mais mal, déprime, avec des douleurs de tous les côtés. Je commençais à parler. Dieu m'avait donné à ce moment-là une inspiration, c'est arrivé plusieurs fois, une inspiration de prier, de parler, d'annoncer l'évangile sur la consolation, sur l'amour de Dieu, sur la foi surtout. Et quand j'avais fini mon message, je me disais, tout a disparu. Tout a passé. Et les gens venaient voir en disant, Alain, qu'est-ce que tu m'as fait du bien en entendant la parole que tu as donnée. Alors, ça nous aide. Ça nous aide. Et ce n'est pas quand tout va bien que Dieu se sert de nous, c'est quelquefois quand tout va mal. Souvenez-vous-en. Hein. Et surtout, ne pleurez pas. Parce que c'est là où vous allez pouvoir mesurer que Dieu ne vous a pas oublié, vous. Mais vous allez en guérir d'autres, par votre parole, bien sûr. Par le témoignage que vous allez rendre. Alors, elles élevèrent la voix, elles pleurèrent, et elles dirent « Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Elles sont déterminées, finalement, à partir à l'aventure. Une aventure, naturellement. Naomi va leur dire, elle va insister, Naomi, elle va dire « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ?» Ai-je encore, et ça c'est peut-être le côté cocasse, dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Ça fait de la différence d'âge, hein. Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela, qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Eh oui, c'est le mur de la nature, ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est ce qu'on appelle les impossibilités. Logique. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. Il y a quelque chose chez Naomi. C'est une Israélite, c'est une femme pieuse, avec toutes les qualités qui s'attachent à cela, cette description. Mais une chose qui est certaine, et ça peut nous arriver, elle n'est pas guérie dans son âme. La perte de son mari, la fuite à cause de la famille, l'établissement qui s'est prolongé pendant 10 ans, la disparition de ses bien-aimés, tout ça lui avait laissé, et c'est l'Ancien Testament, hein, et elle avait assimilé comme une punition de Dieu, et elle était culpabilisée. Moi, je voudrais vous dire, après avoir passé ce qu'il a passé, ce qu'elle a passé, Dieu ne punit pas, et Dieu ne culpabilise pas. Ça, c'est votre problème, peut-être. J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Vous trouverez toujours sur des gens qui vous rencontreront et qui vous diront le contraire. Ah, mais si ceci, si cela, si tu avais un peu plus de foi, ben moi je dis que je suis contre ça. Parce que c'est plus de l'encouragement, c'est de la démolition. Et on en a vu, hein. Je peux vous dire, ah, si tu avais la foi. Mais la personne qui lui dit si tu avais la foi, elle, dans les mêmes circonstances, qu'est-ce qu'elle aurait fait? C'est pour ça, l'Église. C'est une maison d'amour. Une maison où on comprend ce qu'on ne peut pas comprendre, mais on essaie de comprendre en tous les cas. Au lieu de tirer des flèches dans tous les sens, des flèches enflammées, hein, parce que derrière, il y en a un qui allume la mèche. Elles élevèrent la voix, les pauvres, et elles pleurèrent encore. Parce qu'il y a beaucoup de pleurs, hein, dans cette maison. Hein. Orpa embrassa sa belle-mère, et elle va retourner dans son pays de Moab. Elle va dire, non, je ne peux pas quitter ma mère, je ne peux pas quitter mon père, je ne peux pas quitter ma ferme, je ne peux pas quitter mon travail, je ne peux pas quitter ceci et cela. Et là, c'est le contraire. Elle ne va pas croire à Noémie. C'est l'incrédulité, alors que l'autre, c'est la crédulité dans les paroles qui lui ont été données. Elle croit dans les paroles qui lui ont été données. Mais Ruth s'attacha à elle. Et vous savez, quelquefois, on dit « attachez-vous à Dieu ». Et on s'attache à Dieu quelquefois par le truchement de ceux qui nous ont parlé pour la première fois. Hein. Moi, je me souviens quand on m'a parlé pour la première fois de Jésus, de l'Évangile. Hein. Je n'oublierai jamais. Le pasteur, Amsterdam. Et puis, une fameuse personne qui véritablement m'a conduit à la foi. C'était la religion réformée, hein, néerlandaise. Mais après, j'ai eu une conduite qui m'a conduit à revenir à Angers et à découvrir dans une église évangélique le plein évangile, baptême du Saint-Esprit, ma conversion à Jésus. Tout avait été préparé à l'avance. Je le dis toujours, vous allez dire que je vieillis, mais vous avez raison, je vieillis. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi je dis toujours, c'est pour ça qu'il faut avoir de respect pour les personnes, pas les systèmes. Mais moi, les catholiques m'ont donné de croire que Dieu existe. Ouais. Les protestants néerlandais m'ont amené à avoir une Bible que j'ai lue. Et quand j'ai lu la Bible avec les instructions de mon pasteur à Smyrne, eh bien à ce moment-là, ça durait 2 ans, 2 ans et demi. À ce moment-là, quand je suis revenu, il m'avait dit tout simplement, Alain, quand tu vas rentrer en France, va voir l'église réformée de d'Angers. Moi, par un concours de circonstances, je ne rentre pas dans les détails, mais par un concours de circonstances, je ne me suis pas trompé, mais je ne suis pas allé dans cette église, parce que j'avais déjà fait mes classes là-bas, hein, chez les protestants, et quand je suis... Il y avait l'église évangélique qui se trouvait juste à côté de chez mes parents. Je suis allé là, et c'est là où j'ai entendu, finalement, eh bien, le message, le plein évangile que j'ai cru. Et c'est là, miraculeusement, j'ai rencontré Myriam. Elle m'attendait depuis 20 ans. Aïe, 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 aïe. Et vous savez, on a fêté nos 50 ans de mariage cette année. Voilà. Oh oui, mais remarquez, vous savez, c'était difficile pour moi. Bon, vous oubliez ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que je vais prendre dans la voiture en rentrant? Alors, Ruth s'attacha à elle, à Naomi. Alors, j'ai terminé. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, écoutez, c'est les plus belles paroles de ce livre. Écoutez bien. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Ah, extraordinaire! Ça, c'est vraiment une confession de foi. Et aujourd'hui, nous pouvons peut-être refaire cette profession de foi en disant, Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi.
Amen.
Ouais, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Il y a des nuages, il y a des souffrances, il y a des douleurs de toute nature. Mais je veux aller. Je resterai près de toi. Je ne t'abandonnerai pas, mon Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Noémi, la voyant décidée, c'est pour ça que je dis que pour aller, finalement, pour rester chrétien, il faut être décidé. Hein. Et vous savez, dans notre âme, il y a une petite lumière qui s'allume, c'est la volonté. On peut perdre la volonté. Mais si on demande à Dieu qu'il renforce notre volonté tous les jours, mais il va le faire. Envers et contre tout. Hein. Elle cessa d'insister auprès d'elle. Et je finis. Elles firent ensemble, il n'y a plus que deux, hein. Ils sont partis à cinq, enfin, ils sont partis à quatre, et puis là, ils ne sont plus que deux. Alors, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Ça devait serrer dans le cœur de Noémi. 10 ans d'expatriation. Elle dit, je veux voir mon pays, je veux revoir mon peuple, mais je reviens toute seule. C'est triste. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, pardon, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Oui, elle avait vieilli. Elle avait des rides par les traces des larmes sur ses joues, vous comprenez? Ça fait des sillons, là. Hein, c'est la souffrance, c'est la vieillesse, c'est l'âge qui passe. Hein. Alors, elles ont été émues. « Ah, voici Noémie. On n'avait pas entendu parler d'elle depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? On a ouï dire que finalement elle a perdu toute sa famille, son mari et ses deux fils. Et elle revient avec une jeune femme. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Il se posait beaucoup de questions dans la maison du pain. Voilà. Mais le pain était revenu. Voilà. Le pain était revenu, il était sur la table, dans l'abondance. Et il disait, n'est-ce pas, Noémie? Et elle aura répondu, c'est pour ça qu'elle n'était pas tout à fait guérie, notre Noémie. Mais elle va être guérie après, quand elle va voir la descendance de ses petits-enfants, ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle ne verra pas tout, hein, parce que naturellement. Est-ce là Noémie? Alors elle dira, ne m'appelez pas Noémie, mais appelez-moi Mara. Vous savez ce que ça veut dire, Mara?
Amertume.
Amertume. Elle revient avec un mot, amertume. Elle était partie dans l'espérance d'un temps meilleur, d'un jour meilleur, d'un pays meilleur. Et là, elle revient dans l'amertume. Mais elle a eu son compte à la pauvre Naomi. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. C'est pas vrai. Elle n'a pas réglé encore la réalité des choses. Non. Si elle est partie, c'est parce qu'il n'y avait plus l'abondance. Hein? Il n'y avait plus rien. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Ben oui, elle est partie les mains vides et elle revient les mains vides. Mais Dieu est en train de lui dire, mais regarde tes mains maintenant. Regarde, Naomi, moi je vais les remplir tout à nouveau. Et si vous voyez peut-être votre vie vide, si vous voyez les mains vides, eh bien Dieu est en train de, à travers tout ce que vous avez vécu, il est en train d'écarter au maximum vos mains pour qu'il les remplisse. Hé, hey, il va les remplir. Soyez heureux de ce que Dieu va les remplir.
Amen.
Excusez-moi l'expression, mais moi je vous raconte pas du baratin ce matin. Oui, j'ai rien à vendre. Mais une chose qui est certaine, c'est que je peux vous dire le témoignage que nous avons pu avoir, et vous, vous en avez certainement des témoignages, que Dieu, quelquefois, vide nos mains pour nous les remplir à l'excès. Oui, j'ai encore 5 doigts. C'est déjà pas mal. Alors, mais il est rempli, nos mains. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oui, c'est vrai. On se dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis que tu me fasses suivre des chemins incompréhensibles? Je me suis posé la question. Je me suis torturé la tête pour savoir pourquoi tu as permis ça. Moi, j'avais appris que tu étais un Dieu de bonté, de fidélité, etc., etc. Ouais. Alors, elle ne comprend pas. Elle a besoin d'être guérie. Mais quand elle va voir le mari qui va arriver, Boaz, quand elle va voir son petit-fils, Obed, pas obèse, hein, Obed, non, elle n'est pas trop vous tromper, et puis qu'ensuite elle n'aura pas vu parce qu'elle aura disparu, notre brave Naomi, eh bien, les choses, si Naomi dans le ciel aujourd'hui lit la Bible, elle va dire, mais c'est formidable ce que Dieu fait. Et d'une vie, Dieu est capable d'en faire une bénédiction pour les autres et une réussite pour nous-mêmes. Alors, je finis sur quelque chose auquel je tiens particulièrement. C'est le dernier verset. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. On est toujours dans les deux origines, naturellement. Mais ce qui se passe, c'est que, quelque part, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est le plus beau verset que j'ai trouvé dans le livre de Noémie. Écoutez bien, ça devrait... on pourrait penser que c'est de la littérature, c'est de la poésie, des choses comme ça, parce qu'on peut gamberger avec l'imagination, naturellement. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Je vois bien ces deux femmes quand elles étaient sur les hauteurs de Bethléem, les collines, au printemps, peut-être un petit peu vers le mois de mai, peu importe, où là, il y a eu comme une ondulation sur les champs, un vent qui soufflait. D'où il venait, ce vent? Et c'était un champ d'orge. L'orge, c'est comme le blé quand il mûrit. Il est couleur de l'or. L'or. Oui. Il est la couleur de l'or. Elles revinrent au pays de Moab, au commencement de la moisson des orges. Elles ont vu l'or, c'était naturellement l'orge, mais c'était quelque chose, une réponse à la famine qu'elles avaient connue. Parce qu'avant, tout était grillé, hein, quand elles sont parties. Maintenant, c'est véritablement, eh bien, la vie qui revient, tout simplement. Ce qui nous dit quelque chose, c'est que nous avons là la promesse de la fin de la misère et du commencement d'une moisson d'abondance. Au commencement des orges, commencement d'abondance, les champs d'orge après la famille terrible, une des plus peut-être terribles qu'ait connue Bethléem, c'est la couleur de l'or. Oui, mais pas de l'or qu'on va chercher dans les mines sous la terre, mais l'or qui vient des... Oui, parce qu'il est question, hein, si vous faites des... C'est Jésus qui le dit à un moment donné, votre trésor, donc votre or, pas celui qui est en bas, mais celui qui est en haut. Tout simplement, cet or qui scintille, ces semences de, finalement, eh bien, d'orge, au soleil du printemps, c'est l'imagination qu'elle pouvait se donner, de voir la vision qu'elle pouvait avoir, et c'était un synonyme de richesse. D'un retour de la richesse. Elle s'est mariée avec un homme riche et qui va devenir la dynastie finalement messianique. Et puis vous dire également, parce que c'est le titre qui pouvait convenir pour Noël, mais tu pourras le donner après Noël, celui-ci, si tu veux. Je t'en remercie à l'avance. C'est véritablement, eh bien, en quelque sorte, dans le ciel étoilé de Bethléem, c'est la lumière de l'espérance pour tous les hommes que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'ai peut-être pas fait mal de changer mon fusil d'épaule. Mes frères et sœurs, que Dieu vous aide. Mes frères et sœurs qui souffraient, qui vous posaient des questions, souffraient physiquement, ça fait mal. Qui souffraient au niveau de votre cœur sentimentalement, ça fait mal aussi. Au niveau de votre combat et lutte spirituelle incessante tous les jours, là aussi, Dieu vous donnait un ciel au-dessus de votre tête et dans votre cœur, un ciel étoilé, parce que finalement, il est en train de préparer quelque chose pour vous, pour votre bénédiction, et vous serez ensuite, eh bien là, des témoins comme Naomi, qui pourront dire à d'autres qui vivent ce que vous vivez, eh bien voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Seigneur, nous avons tous une histoire. Parfois, nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes confrontés avec des choix. Des choix, Seigneur, qui, dans certaines circonstances, nous offrent cette amertume qui est la souffrance, et nous ne comprenons pas. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a eu des Joseph en Égypte, qu'il y a eu des hommes et des femmes comme Job, qui là, après avoir tout gagné, tout perdu, ce qu'ils avaient gagné, ont tout retrouvé au centuple. Nous te bénissons et nous te remercions parce qu'il y a en effet une liste tellement immense. Et nous croyons que quand Jésus est venu, il est passé par la souffrance. Mais il nous est dit que, eh bien, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et nous te bénissons et nous te remercions. Mais ce gage d'être béni, d'être enrichi, est passé par la croix. Et il y a en effet cette expérience qui suit la croix, c'est la résurrection. Et nous te bénissons parce que même si nous souffrons ici-bas, eh bien, il y a un plan de résurrection pour chacun d'entre nous. Et nous bénissons ton nom ce matin. Nous te louons, nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur. Tu nous as appelés, mais tu ne nous as pas appelés pour rien. C'est pour régner avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur du monde entier, notre Sauveur à nous. Nous voulons te bénir quelques instants maintenant, Seigneur. Tu nous visites. Aide-nous, Seigneur, eh bien, à sécher nos larmes. Donne-nous de regarder du bon côté. Donne-nous de regarder positivement et non plus négativement. Donne-nous de fermer nos cœurs et nos oreilles à toutes les suggestions de l'ennemi qui nous dit, comme en Éden, Dieu a-t-il réellement dit ? Eh bien, moi, je dis que Dieu nous a bien dit. Que Dieu nous a dit, en effet, ce qu'il allait faire. Et il va le faire. Et nous te remercions et nous te bénissons. Oui, nous te louons, Seigneur. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour ceux qui sont en souffrance, ceux qui se posent mille et une questions, qui sont là déchirés par toutes sortes de choses et qui ne comprennent pas. Eh bien, c'est la même chose que Jésus dira à Pierre. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras bientôt. Amen. Amen. Amen.